Chapitre 14. Le lendemain matin, vers 10 heures, Naurouz entrait dans l'étude de M. Lejeunet de la Crochardière. Lorsqu'il eut poussé la porte et qu'il se trouva dans une grande pièce où, derrière des bureaux isolés et sur des tables à pupitres en bois noirci, travaillaient 8 ou 10 clercs, il y eut parmi ces clercs un mouvement de curiosité et de surprise. Il n'était cependant jamais venu chez son notaire, où son nom s'étalait en ronde sur une série de cartons verts. Mais plusieurs des clercs, parmi ceux qui étaient jeunes et qui fréquentaient les courses et les théâtres, avaient eu l'occasion de le voir bien souvent, celui-ci à Longchamp, à Vincennes ou à La Marche, en casaque de soie de telle ou telle couleur, celui-là dans une avant-scène de petit théâtre en tenue de soirée, le Gardénia à la Boutonnière. Le premier qu'il reconnut murmura son nom à voix basse et aussitôt ce nom courut de bouche en bouche. « Le duc de Naurouz !» Toutes les têtes se levèrent et, en même temps, toutes les mains s'arrêtèrent, les unes sur le papier qu'elles étaient en train de noircir, les autres suspendues au-dessus de l'encrier. Le second clerc qui dirigeait cette étude disparut dans le cabinet du premier clerc pour aller frapper à la porte du notaire lui-même. Puis, presque aussitôt, il revint chercher Roger. Le notaire, vêtu de noir et cravaté de blanc, vint au-devant du duc jusqu'à la porte de son cabinet. Sa mine était encore plus cérémonieuse, plus grave que sa tenue. Ce fut seulement quand Roger se fut assis qu'il prit place lui-même dans son fauteuil de maroquin, devant son bureau ministre, sur lequel tout était rangé, dossiers, lettres, papiers, avec un ordre parfait. « En vous disant hier au revoir, commença Roger, je ne croyais pas devoir vous faire aussi promptement visite. Mais une imprudence que j'ai commise cette nuit m'oblige à vous demander votre concours. » Il débita ce petit discours préliminaire légèrement, presque gaiement, comme s'il s'agissait d'une affaire de peu d'importance. « Monsieur le duc, je suis tout à votre disposition, » dit le notaire gravement. « J'ai perdu cette nuit 800 000 francs, » continua Roger, « et je viens vous prier de me les faire prêter. » « Je connaissais cette catastrophe. » « Et comment cela ?»« Pour en avoir lu le récit ce matin dans un journal. » « Mais c'est impossible. » « C'est aussi ce que je me suis dit en lisant ce récit dans lequel vous n'êtes pas nommé, mais où vous êtes si clairement désigné qu'on ne peut pas ne pas vous reconnaître. Tout d'abord, j'ai douté, je n'ai pas voulu croire. » Mais en relisant cet article, la vérité s'est fait jour malgré toute résistance et, je vous l'avoue, mes cheveux s'en sont dressés sur ma tête. C'était là une image empruntée plutôt à la rhétorique qu'à la réalité, car le crâne de M. Lejeunet de la Crochardière manquait des éléments nécessaires à l'horripilation. Mais enfin, elle disait assez bien jusqu'où avait été son émotion. Le notaire prit une pile de journaux placés sur la cheminée et, en ayant ouvert un, il le tendit au duc. En tête des Échos de Paris, on lisait « Cette nuit, un de nos plus brillants gentlemen, que chacun nommera quand nous aurons dit qu'il a tout pour lui, la fortune, l'esprit, la distinction de la personne et du nom, et qu'il est une des physionomies les plus attractives du monde parisien, réunissait dans un dîner quelques-uns de ses amis pour fêter sa majorité. Après le dîner, on a tout naturellement taillé un bac et le jeune duc de... nous allions le nommer, a perdu 800 000 francs. On nous dit qu'il est impossible d'être plus beau joueur que ne l'a été ce jeune homme qui, hier encore, était un enfant. » Le duc ne continua pas l'entrefilé qui se terminait par l'éloge de la façon brillante dont il savait perdre. « Cela est ridicule, » dit-il en jetant le journal sur un fauteuil. « Je ne sais vraiment qui a pu commettre une pareille indiscrétion. Je n'appartiens pas au public, il me semble, ni aux journaux. » Puis, se passant la main sur le front, comme pour effacer les contractions qu'il avait plissées, « Mais c'est pour vous parler affaire que je suis ici. Ne nous occupons donc que de cela. Je viens vous demander de me prêter, je veux dire de me faire prêter ces 800 000 francs. » « Mais on vous a versé 977 000 francs hier !» s'écria le notaire. « J'avais des dettes, cette somme a servi à les payer. »« 2 millions engloutis ?» Pardonnez-moi ces exclamations, c'est la surprise, c'est le chagrin qui me les arrache, non la pensée de vous adresser des remontrances. Celle que vous pourriez m'adresser et que j'écouterai la tête basse ne pourrait pas être plus vive que celle que je m'adresse moi-même. Mais ce qui est passé, et il n'y a pas à y revenir autrement que pour y prendre une leçon. C'est du présent qu'il s'agit à cette heure. J'ai perdu, je dois payer. Pour cela, il me faut 800 000 francs ce soir ou au plus tard demain matin. Mais c'est impossible. Je ne puis pas, maintenant que je suis majeur, trouver 800 000 francs à emprunter en donnant une propriété en gage. Je ne dis pas cela, je dis seulement que l'impossible, c'est de trouver une pareille somme instantanément. Il faut les prêteurs d'abord, d'autre part, il y a des formalités à remplir qui exigent des délais, délais pour obtenir les états d'inscription dans les différents bureaux dont dépendent vos propriétés, délais pour expertiser si nous nous adressons au crédit foncier. Roger se leva. « Qu'allez-vous faire ? » s'écria vivement le notaire. « Chercher autre part ce que j'espérais trouver chez vous. N'agissez pas à la légère, n'aggravez pas votre situation. Vous me disiez, il n'y a qu'un instant, une parole qui m'a touché. Vous me disiez que vous écouteriez mes remontrances. Je ne vous en veux point faire, mais je vous demande au moins d'écouter mes avertissements et mes conseils qui ne sont dictés, croyez-le bien, que par la sympathie. « J'en suis convaincu, » dit Roger, ému par l'accent de ses paroles, « et d'avance je vous remercie. » En dépensant une somme de près de 2 000 000 en une soirée et le jour même où vous atteignez votre majorité, vous vous êtes exposé à ce qu'on formule contre vous l'accusation de prodigalité. « Peu importe, je n'ai pas souci des accusations du monde. »« Ce n'est pas au monde que je pense, c'est à votre famille. »« Je n'ai plus de famille, vous le savez bien. » Vous avez un grand-père, des cousins, des cousines, légalement vous avez une famille. Et c'est de cette famille légale que je parle, c'est elle qui, vu les faits de prodigalité, pourrait demander qu'il vous fût nommé un conseil judiciaire. C'est là une mesure grave. Odieuse ! S'écria Roger, mais qu'on ne peut pas prendre envers moi, je l'espère bien, quoique ma famille soit capable de tout. Qu'on nomme un conseil judiciaire à un jeune homme qui ruine son père, à un homme qui réduit sa femme et ses enfants à la misère, cela se comprend. Mais je n'ai pas de père, je n'ai pas de femme, pas d'enfant. Ma fortune est à moi seul. Je suis libre, il me semble, libre d'en faire ce que je veux, même de la gaspiller. Je jouis de ma raison, je ne suis pas fou. Le fou, on l'interdit. Au prodigue, on nomme un conseil judiciaire. C'est la loi. Loi qui ne considère pas le prodigue comme jouissant de toute sa raison, surtout de sa volonté. Pour la loi, le prodigue n'est pas libre, il subit des entraînements, des surprises, et c'est pour le protéger contre ses surprises et ses entraînements qu'elle intervient, et en cela, elle agit non seulement dans l'intérêt du prodigue pour le protéger contre lui-même, mais encore dans l'intérêt de la famille, à la charge de laquelle il pourrait tomber, et qui, d'ailleurs, ne doit pas se voir frustré de légitimes espérances par des dissipations désordonnées. Roger se frappa le front. « Ah, voilà, voilà le mot de la situation, » s'écria-t-il, « la famille frustrée de légitimes espérances. Maintenant, je comprends votre avertissement. Le comte de Condrieu veut me faire nommer un conseil judiciaire, n'est-ce pas ?»« Monsieur le duc !» En quoi consiste au juste ce conseil judiciaire, je vous prie ? Le prodigue ne peut ni plaider, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir un capital mobilier, ni grever ses biens d'hypothèque, ni les aliéner sans l'assistance de son conseil. Ni emprunter, ni aliéner, c'est cela. C'est le moyen qu'on va employer pour conserver intacte ma fortune jusqu'au jour où on compte en hériter. Il se leva vivement. « Monsieur le duc, que voulez-vous faire ? » s'écria le notaire. « Agir au plus vite, trouver n'importe comment, n'importe à quel prix, c'est 800 000 francs. Il n'est que temps. Déjà, peut-être, la demande est-elle formée. Demain, je ne pourrai plus payer. » « Mais... » Roger s'était dirigé vers la porte, il se retourna. « Je n'ai rien oublié de ce que vous m'avez dit. Je l'ai compris. » Tout cela est juste, je le sais, je le sens. Mais il me faut cet argent, mon honneur est engagé. »